Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore. Merci de toujours nous suivre sur les ondes de Canal M. Alors aujourd'hui, je reçois une personnalité, une grande dame. Il s'agit d'Amina Gerba. Il faut un peu d'imagination pour voir ce chemin qui conduit du Cameroun à un siège au Sénat. C'est pourtant celui qu'a emprunté Amina Gerba, seule fille scolarisée dans une fratrie de 19 enfants. Arrivée au Canada en 1986, elle a obtenu son MBA, est devenue femme d'affaires, a travaillé à rapprocher les communautés, a conduit les femmes burkinabées vers l'autonomie. Nommée sénatrice en 2021, elle fait le pont entre l'Afrique et le Canada, maintenant à titre de coprésidente de l'Association parlementaire Canada-Afrique. Bonjour Amina Gerba.
Bonjour Marjorie.
Alors, quel plaisir de t'avoir. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Je sais que tu as un horaire très chargé, puis on va d'ailleurs en parler beaucoup.
Alors, le plaisir est pour moi. Hein. Je suis très contente d'être ici. Félicitations pour cette belle émission que je suis... attentivement.
Oui. Ah ben merci. Et puis comme on se connaît, donc alors je me permets aussi le tutoiement parce qu'on se connaît déjà durant de longues années déjà. Donc Amina, parce qu'il y a des gens qui te connaissent, il y en a d'autres qui te connaissent pas. Tu as donné beaucoup d'entrevues et puis à chaque fois on en apprend sur toi. Donc j'espère de tout cœur qu'on va encore en apprendre sur toi pour ceux qui te connaissent déjà ici. Mais par contre, j'aimerais au début, pour mettre en contexte, donc ce parcours de femme immigrante du Cameroun au Québec. Donc si tu peux nous expliquer un petit peu ce parcours migratoire.
Mm-hmm. Alors merci de me donner la parole. Écoute, le parcours migratoire est le même pour la plupart des immigrants. Mm-hmm. Dans mon cas, vraiment, ce qui est assez, comme je dis toujours, qui l'aurait cru, c'est que je suis née, comme vous l'avez dit, d'une famille de 19 enfants, seule fille à avoir pu aller à l'école. Mais c'est quand je le dis, les gens ne peuvent même pas s'imaginer à quel point cette opportunité d'aller à l'école a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je suis allée à l'école parce que en Afrique, à l'époque, hein, parce que ça a quand même changé, à l'époque, les filles, les enfants étaient les enfants de la famille. Et c'est pas parce que une personne n'a pas eu d'enfant qu'elle ne peut pas prendre de la famille. Donc, c'est comme ça que j'ai une cousine qui est venue me chercher au village, née dans une petite communauté, un petit village appelé Bafia. Donc, cette cousine est venue me chercher pour me ramener au centre-ville, parce que c'est là-bas qu'elle vivait avec son mari. Donc, elle m'a donné la chance d'aller à l'école, parce que pour elle, c'était important d'aller à l'école. Mais pour les parents... c'est les garçons qui devaient aller à l'école parce que les garçons avaient beaucoup plus de chances de trouver un emploi, de s'épanouir, et les filles devaient se marier très tôt. Donc si je n'étais pas sortie de ce contexte-là, je me serais mariée comme ma mère à 14 ans.
Ah oui. Et puis, comment on a choisi le Canada et le Québec en particulier? Comment ce choix s'est fait?
Alors, c'est pas un choix que j'ai fait, en fait. C'est mon mari qui a eu une bourse d'études de l'AID, Agence canadienne de développement international, à l'époque, qui a disparu aujourd'hui.
C'est ça, oui.
Mais l'AID donnait des bourses d'études aux étudiants, aux personnalités africaines pour venir faire la formation des formateurs. C'est comme ça qu'il a eu une bourse pour venir faire son doctorat, son PhD à l'Université du Québec à Montréal. Et il m'a amenée dans ses valises.
Ah oui, d'accord. Donc, alors, tu t'es mariée durant tes études au Cameroun. C'est ce qui t'a permis de venir avec ton mari ici.
Alors, je me suis mariée avant de venir ici.
Oui.
Je suis venue avec mon mari et c'est ici que j'ai repris mes études. Parce qu'en fait,
oui,
ce que je vous ai pas dit au début, c'est que quand je suis allée à l'école, avant de terminer mon lycée, ce qui est le cégep ici, je suis tombée enceinte.
Oui.
Et quand je suis tombée enceinte, j'ai dû abandonner l'école. En fait, on m'a sortie de l'école parce qu'à l'époque, une fille qui n'était pas encore mariée ne pouvait pas rester à l'école.
D'accord.
Donc, j'ai arrêté, on s'est mariés, on est arrivé au Canada en 1986. Et c'est comme ça qu'il m'a encouragée à retourner au cégep où j'ai fini mon DEC. J'ai continué au bac à l'UQAM.
Oui.
J'ai fini mon bac et j'ai continué au MBA. J'ai fini mon MBA.
Wow, quelle belle histoire. Et comment, dans une fratrie de 19 enfants, comment qu'on prend sa place? Parce que déjà, la femme que je connais, que les gens voient et tout ça, aussi dynamique, persévérante, d'abord, on va trouver les qualités tout à l'heure, mais déjà, dans l'enfance, ça devrait paraître.
Effectivement, ça devait paraître, et c'est ça qui m'a permis d'ailleurs de bondir sur l'occasion, parce que quand ma cousine est venue me chercher, c'est pas moi qu'elle voulait, c'est une de mes sœurs qu'elle voulait, et j'ai bondi sur l'occasion, j'ai dit c'est moi.
Oui,
Donc je me suis accrochée à elle, j'ai dit c'est moi. Donc, entrepreneuriat, je crois que j'ai commencé par là, c'est-à-dire m'affirmer.
Oui.
C'est l'affirmation, c'est la c'est l'estime de soi, de dire ben moi je suis capable et c'est moi qui vais venir avec toi.
Donc déjà il y avait ce tempérament là de vouloir quelque chose de plus que ce qu'on pouvait donner,
de vouloir et de prendre ce qu'on a à prendre et de prendre sa place, parce que au vu de ce parcours, au vu de cette initiative à l'enfance, parce que c'est à 6 ans. Ça me permet aujourd'hui, avec du recul, de comprendre que je voulais avoir ma place autour d'une table.
Wow. Donc, Amina, tu es arrivée au Québec. Est-ce que tu avais, parce que tu as tellement fait de choses, est-ce que tu avais déjà tant de rêves dans ta tête avant de venir?
Écoutez, quand vous tombez enceinte à l'âge de 20 ans, vous commencez votre vie à cet âge-là aussi. Donc, j'étais très, très indépendante. J'ai commencé à faire du commerce. Et dans ma tête, il fallait que j'entreprenne. Il fallait que je m'autonomise. Il fallait que je puisse être ma patronne, donc avoir mon destin entre mes mains. J'avais beaucoup de rêves, c'est sûr, mais c'est les études qui m'ont permis vraiment de bien mettre en place ce que je voulais atteindre comme objectif.
C'est ça. Et la vie a placé des opportunités, je crois. Et comme tu l'as fait si bien lorsque ta tante était venue te chercher, de les saisir.
Effectivement, il faut vraiment saisir tout ce qui se présente devant soi comme opportunité. Et je crois que c'est ça que j'ai fait. J'ai passé mon temps à le faire. Saisir les opportunités quand on rencontre les gens. Il faut toujours savoir qu'est-ce qu'on peut avoir à partir de cette opportunité-là. Et c'est ça qui m'a permis de continuer à bâtir un chemin avec tout ce que je trouvais autour de moi et tout ce que je voyais autour de moi.
Oui, oui. On a, j'avais demandé un peu les qualités que tu avais à des gens qui te connaissent plus, donc ton environnement de travail. Donc, alors il y a 3 adjectifs qui viennent. Alors, passionné. Est-ce que tu dis de ça, ensuite après, il va falloir que tu nous convainques que tu es passionné, même si on le sait déjà. Passionné. Je m'engage à fond et avec un enthousiasme marqué dans les sujets activité ou un domaine dans lequel je m'investis, en y mettant du temps, énergie, ferveur, détermination et motivation, mm-hmm. en travaillant de manière constante et acharnée.
Ça me définit totalement.
Totalement, hein?
Ça me définit totalement parce que je crois que dans la vie, si on n'est pas passionné, on n'avance pas.
Ouais.
Et quand on est passionné, ça se voit à travers ses actions, ça se voit à travers ses engagements, mm-hmm. ça se voit à travers l'engouement qu'on a lorsque l'opportunité arrive.
Ouais.
Donc, c'est la passion qui se traduit finalement dans le succès. Parce mm-hmm. que si on n'est pas passionné, c'est ce que je dis à mes enfants et à tous ceux qui m'entourent, parce que je fais du mentorat aussi.
Ouais.
Je dis, si vous choisissez un domaine parce que vous allez faire de l'argent, mm-hmm. vous vous trompez.
Ouais.
Parce que si on n'est pas passionné par ce qu'on entreprend, mm-hmm. on fait fausse route.
Ouais.
Parce qu'on suit la passion des autres. On voit les gens réussir mm-hmm. et on croit qu'ils réussissent parce qu'ils ont fait telle chose, nous aussi, on va les imiter.
Ouais.
Il ne faut pas imiter les gens, il faut vraiment être passionné mmh. et choisir les activités, les implications, les entreprises même, mmh. en fonction de cette passion-là ouais. qui nous anime, parce que c'est cette passion qui nous amène à rêver, c'est cette voilà. passion qui nous amène à achever les objectifs qu'on ouais. se fixe.
Tout à
Sinon,
fait.
On est égaré.
Voilà, très bien dit. Ensuite, deuxième, c'est la persévérante. Alors, j'ai une capacité à maintenir les efforts constants et à persister dans la poursuite de mes objectifs, même face à des difficultés ou des revers, et je fais toujours preuve d'une grande résilience et d'une détermination en m'adaptant aux défis, obstacles que je dois surmonter pour réussir et atteindre mes objectifs visés. Donc, la persévérance, aussi, tu te reconnais là-dedans.
Absolument. Absolument, parce que quand on arrive dans un nouveau pays, la première des choses qu'on a, c'est qu'on se retrouve seul.
Mm-hmm.
On est seul à entreprendre des choses, une nouvelle vie.
Oui.
Et quand on l'entreprend, on se dit, ben, elle ne va pas être facile.
Mm-hmm.
Donc, quand elle n'est pas facile, ça veut dire qu'il faut travailler. Le travail est important. Moi, je travaille sans arrêt.
Ah ouais.
Je suis une workaholic, là.
Oui, oui.
Mais à tel point que mon bureau est toujours ouvert.
Ouais.
Et je dis à tous ceux qui veulent l'entendre mm-hmm. qu'il n'y a rien de facile.
Mm-hmm.
La vie facile, l'argent facile n'existe pas.
Ouais.
On peut faire des erreurs.
Mm-hmm.
On apprend de ces erreurs-là et on continue. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie, mais c'est pas à partir de la première expérience.
En effet, ouais.
C'est à partir de la cinquième, la dixième même.
Excellent.
Donc, si on n'est pas persévérant, si on n'est pas résilient, si on n'accepte pas les mauvais... si on n'accepte pas les défis
mm-hmm.
qui sont devant nous et qu'on se dise que ces défis-là sont des opportunités qui vont nous amener à nous améliorer.
Ouais.
Ça veut dire qu'on ne va... On n'ira nulle part.
Oui, tout à fait.
C'est important.
Ouais. Et enfin, on est positive. Donc, je suis une optimiste de nature et j'aime toujours voir le bon côté des choses. Grâce à ma foi, j'ai la conviction que tout ce que Dieu fait est bon. C'est cette conviction qui me guide et me fait voir les obstacles de la vie avec un enthousiasme. Je cherche toujours aussi des solutions constructives et j'encourage ceux qui s'entourent à avoir la même attitude face à la vie.
Mm-hmm.
Donc, le positif.
Écoutez, je pense que je suis née positive, vraiment,
oui.
dans tous les sens du terme.
Mm-hmm.
Mais je l'ai constaté encore plus lorsque j'ai lu un livre qui s'appelle Le Secret.
Oui.
Ce livre-là m'a amenée vraiment à comprendre que j'étais,
mm-hmm.
je vivais le secret.
Oui.
Vivre le secret, ça veut dire qu'on transforme tout ce qui est devant soi mm-hmm. en opportunité positive.
Oui.
Qu'on transforme tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a comme défi en opportunité.
Oui.
Et c'est ça qui m'a amenée à me lancer d'ailleurs en affaires.
En affaires, oui.
Et me lancer en affaires dans un secteur où personne ne pouvait voir que du positif.
Que du positif, exactement.
Voilà. Ça va?
Oui.
Ah, je m'excuse.
Oui, tout à fait. Non, ça va. On poursuit sans problème. Donc,
est-ce que c'est correct?
Oui,
est-ce
tout à fait, tout à fait. Donc, alors, il y avait ces trois
adjectifs. Je vais continuer dans le positif.
Oui, oui.
Donc, je disais que c'est ça, être positif, c'est ça qui m'a amenée à lancer ma première entreprise.
Oui.
Et à évoluer dans un secteur où personne ne parlait de l'Afrique. Oui. Personne ne pensait à l'Afrique comme opportunité d'affaires.
Mm-hmm.
Personne ne voyait l'Afrique positivement.
Oui.
Moi, je me suis donné comme mission de faire reconnaître les atouts, les ressources, les opportunités qu'il y a dans ce continent, ici, au Canada.
Oui.
Et pour le faire, il fallait que je me présente dans toutes les chambres de commerce qui existent.
En effet.
Pour faire connaître auprès des entrepreneurs, des compagnies qui pourraient être intéressées. Et personne ne m'écoutait quand je présentais ma carte. Il n'y a personne qui m'écoutait. Ouais. Donc, je suis restée positive jusqu'au bout.
Ouais.
Et voilà.
Incroyable. Donc, alors, cette fibre entrepreneuriale qu'on peut voir qui était déjà là dès ton jeune âge a permis maintenant que tu t'es lancée dans... on va prendre la période de ta vie où tu t'es lancée dans l'aventure pour fonder ta première compagnie. Comment tu l'as fait?
Donc, j'étais déjà rendue dans cette partie-là sans le savoir que vous allez poser la question. En fait, comment je l'ai fait quand je suis arrivée au cégep? J'étais la plus vieille fille du cégep dans ma classe.
Oui, là, oui, oui.
Parce que je suis retournée aux études à 25 ans.
Oui, d'accord.
Donc, pour le cégep, c'est très tard. Et je me retrouvais avec des jeunes qui me posaient la question sur mes origines et tout.
Mm-hmm.
Et c'est les mêmes questions qui revenaient. Vous venez d'Afrique. Est-ce qu'il y a des routes? Est-ce qu'il y a des maisons? Est-ce qu'il y a? Et... quand je me suis retrouvée à l'université, c'était la même chose.
Mm-hmm.
Les gens, j'ai compris qu'il y avait une méconnaissance de l'Afrique.
Oui.
Une méconnaissance, et pour combler cette méconnaissance, je me suis donné comme mission de lancer cette entreprise-là, qui avait comme mission vraiment d'ouvrir les yeux, d'informer les entreprises, sur les opportunités d'affaires. C'est comme ça que c'est venu l'idée de me lancer
En affaires. Donc, la première entreprise, c'était le groupe Conseil
Oui, c'était un groupe Conseil Afrique Expansion Inc.
Oui.
Qui avait comme mission, comme je le disais, vraiment de faire le pont déjà entre les entreprises canadiennes et africaines. Montrer aux entreprises canadiennes à travers des missions commerciales, à travers... une revue qu'on a créée avec mon mari, que l'Afrique n'était pas que un pays, parce que déjà les gens pensaient que c'était juste un pays,
dont
l'Afrique était un continent avec 55 pays, et que ces pays-là n'étaient pas au même niveau de développement. C'est vrai qu'il y a de la pauvreté, c'est vrai qu'il y a des maladies, il y a la famine dans certains pays, mais d'autres pays en Afrique sont vraiment des pays qui sont très développés en termes d'opportunités. Il y avait beaucoup de choses à faire. C'était ça qui me motivait, qui m'a donné vraiment l'envie de poursuivre avec cette compagnie-là.
D'accord.
J'en parle, mais je n'y suis plus, parce que c'est important de le dire, parce que
Mais tout à fait, ça je le sais, parce que d'ailleurs, je vais te poser la question un petit peu plus tard, mais le fait, c'est parce que ça fait partie de ton parcours, donc c'était important de le faire, même si avec le rôle actuel, on a dû se départir. D'accord. Donc, Amina, tu as commencé très jeune à être entrepreneur, à avoir cette idée de créer ta compagnie et tout. Est-ce qu'à ce moment-là, au bénéfice des femmes qui nous écoutent, est-ce que tu as ressenti ce qu'on appelle le fameux syndrome de l'imposteur? Ou est-ce que tu t'es toujours sentie assez confiante pour démarrer ton entreprise et puis pour poursuivre?
Écoutez, à cette époque-là, je n'avais jamais entendu parler
Oui.
du syndrome de l'imposteur.
En effet, oui.
Je n'avais jamais entendu parler et je pense que c'est avec le temps que j'ai compris
oui.
pourquoi les femmes avaient ce syndrome-là.
Mm-hmm.
Et personnellement, j'avoue que c'est très, très récemment que j'ai senti.
Oui.
C'est-à-dire quand je suis arrivée au Sénat. Mais quand j'étais dans les affaires, je me suis lancée dans un domaine qui était un domaine de communication
oui.
réservé aux hommes.
Mm-hmm.
C'est les hommes. Aller en Afrique, je devrais sentir ce syndrome,
oui.
mais je pense que je ne l'ai jamais senti, honnêtement.
D'accord.
Pourquoi? Parce que j'avais cette confiance en moi depuis le début. Et j'avais l'assurance que je pouvais apporter quelque chose,
oui.
que je pouvais enseigner, éduquer ce qui était autour de moi. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent encore aujourd'hui,
mm-hmm.
quand je t'entends parler de l'Afrique, j'ai envie d'aller en Afrique.
Oui.
Donc, j'avais cette volonté de transmettre quelque chose et c'est peut-être ça qui a fait que je ne ressente pas le syndrome de l'imposteur.
Oui.
Mais vous savez, quand est-ce que je l'ai senti?
Mm-hmm.
Quand je me suis retrouvée au Sénat.
Oui.
J'ai regardé toutes ces personnalités avec des parcours incroyables.
Mm-hmm.
Il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que j'ai fait pour être au Sénat.
Oui.
J'ai réfléchi et je me suis dit, ça mène à se poser des questions, à se demander qu'est-ce qu'on a fait.
Mm-hmm.
Je lui ai répondu tout simplement, allez lire mon parcours, vous allez comprendre. Et si vous voulez, demandez au Premier ministre pourquoi il a recommandé ma nomination.
Ouais. Mm-hmm.
Mais c'est facile de l'avoir, c'est facile de se sentir imposteur en
ouais.
fait.
Ouais.
Mais ce que j'ai dit aux gens que je m'entends,
mm-hmm.
ce que je leur dis, c'est que pour être où ils sont,
oui.
ils ont travaillé.
Tout à fait.
Ouais. Ils ont travaillé très fort, ils sont capables et n'ont pas à se sentir inférieurs aux autres.
Mm-hmm.
Et c'est ça qui fait que je ne me suis jamais préoccupée du racisme ou des barrières.
Oui.
Je ne me suis jamais préoccupée de cela parce que c'est pas parce que je ne voyais pas, je ne sentais pas.
Mm-hmm.
Je me disais, je ne veux pas donner l'importance à ce que les gens pensent dans leur tête.
Oui.
Je veux qu'ils m'apprécient pour ce que je suis,
oui.
tout simplement. Mm-hmm. Et je m'efforçais, grâce au travail, à la conviction, à la passion, à la persévérance, de montrer justement ce dont je suis capable.
Oui, oui.
Voilà.
Tout à fait, tout à fait. C'est ça parce que le racisme, je veux dire, je pense qu'on en a tous vécu, tu en as vécu aussi.
Oui.
Puis, comment tu arrivais à faire la part des choses, puis de poursuivre?
Ben, écoutez, comment on fait la part des choses quand on est victime de racisme? Mais si c'est aux études, c'est en montrant à ceux qui se croient supérieurs.
Mm-hmm.
Que vous êtes capable, par vos notes par exemple, par vos notes, vous allez prouver que vous êtes capable et que les gens ne doivent pas se contenter de regarder votre peau.
Oui.
Ils doivent comprendre que vous avez de quoi partager. Mm-hmm. Vous êtes capable de rendre, vous êtes capable de livrer ce qui est attendu de vous.
Mm-hmm.
Et ouais. Il faut le montrer.
Mm-hmm.
Vous savez, en Afrique, j'imagine en Haïti aussi,
oui.
où dans les familles afro-descendantes, on nous apprend l'humilité.
Mm-hmm.
Et je pense que c'est cette humilité-là qui fait que finalement, on a l'impression qu'on est inférieur, alors qu'on veut juste ne pas se vanter.
Oui, oui, oui.
Donc, il faut faire la différence entre l'humilité mm-hmm. et la vantardise.
Oui, en effet.
C'est bien d'être humble, mm-hmm. on l'est tous, mm-hmm. mais c'est bien de se montrer capable.
Oui.
Et de faire en sorte qu'on le reconnaisse.
Tout à fait. Entièrement d'accord. dans tout ce parcours, il y a eu des moments difficiles, des moments où, parce qu'on a parlé de résilience, qui était aussi une de tes forces. Dans les moments difficiles, est-ce que tu peux nous parler d'un moment où ça a été difficile et ça a pris ta résilience pour t'en sortir?
Les moments difficiles, je peux en parler toute la vie. Hein.
Ouais.
Je pense que se lancer en affaires, c'est un pari risqué.
Ouais.
Et être en affaires tous les deux, mm-hmm. le mari et la femme,
ouais.
c'est doublement risqué.
Mm-hmm.
Donc, on a tout misé au point où, à un moment donné, on n'avait plus de salaire.
Ouais.
On n'avait plus de salaire, donc il fallait persister. Il fallait persister jusqu'au moment où on a eu enfin mm-hmm. ce contrat qui est venu tout éclairer,
oui.
qui est venu nous montrer que voilà, vous êtes sur la bonne voie et il fallait continuer. Mm-hmm. Et quand on nous enseigne au niveau du MBA, la plupart du temps, on vous dit 3 ans, l'entreprise,
oui.
C'est théorique. C'est théorique. Oui. Mm-hmm. Moi, j'ai été en affaires pendant 25 ans et je peux vous dire que c'est durant la 10e année
oui.
que réellement, je me suis sentie, mm-hmm. j'ai senti que j'ai réussi en oui. affaires après 10 ans.
Oui.
Donc, il a fallu persévérer.
Mm-hmm.
Il a fallu y croire. Il a fallu travailler,
mm-hmm.
avoir la foi.
Oui.
Et si je pouvais vous raconter les anecdotes, je pense qu'on passerait une semaine ici à parler.
Oui, oui.
Mais si vous en voulez une, je peux vous donner une.
Tout à fait.
Là, c'est quand j'ai créé l'autre entreprise qui est dans les cosmétiques.
Oui.
Je la raconte toujours. J'en ai deux que je peux vous raconter mm-hmm. pour voir à quel point c'est important de persévérer et de croire en soi.
Oui.
La première, c'est quand j'ai créé mon entreprise de cosmétiques.
Oui, oui.
Avec les femmes du Burkina. Mm-hmm. On s'est retrouvés à avoir une première commande mm-hmm. qui venait du Cameroun.
Oui.
On a produit la commande, on envoie au Cameroun.
Mm-hmm.
La commande arrive après 45 jours. Les produits avaient noirci.
Wow, OK.
Totalement noirci, oui, c'est oui. allé dans la poubelle.
Mm-hmm.
Parce qu'on n'a pas compris qu'il y avait des ingrédients chimiques
oui.
qui pouvaient altérer les produits.
Oui.
Donc, on a dû jeter. Évidemment, on n'a pas été payé.
Tout à fait.
Donc, on a dû se remettre au travail
oui.
en disant, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ça? Et on a trouvé la solution.
Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore.
Donc, toujours avec moi, Amina Gerba, sénatrice et coprésidente de l'Association parlementaire Canada-Afrique. Donc, alors, je reviens à la question. Quelle a été la solution?
Alors, la solution à ce problème était d'enlever tout ce qui était chimique dans nos produits.
Mm-hmm.
Donc, c'est comme ça qu'on est devenu une marque essentiellement de produits naturels
oui.
sans aucun ingrédient chimique et nous avons continué à produire malgré la grosse perte financière.
Ouais. Ah ouais, ça a été tout un apprentissage là.
Tout un apprentissage et oui. comme je disais tantôt, on apprend de ses erreurs et mm-hmm. on a appris avec celle-là et puis on s'est lancé dans une nouvelle voie qui a porté fruit.
Oui, oui. Donc, l'entreprise que tu as fondée justement au niveau des cosmétiques, il y avait le beurre de karité qui était un produit. Donc, mais ce que je veux voir, c'est qu'il y avait tout un écosystème que tu as bâti avec cette... il y avait l'entreprise, mais il y avait les femmes. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi tout l'écosystème autour de cette entreprise-là?
Mm-hmm. Écoutez, on est parti du fait que nous croyons profondément que l'Afrique regorge de produits naturels,
oui.
de ressources naturelles qui ne demandent qu'à être exploitées. Mm-hmm. Donc, c'est sur cette base-là que je me suis rapprochée des femmes du Burkina Faso,
oui,
pour exploiter leur matière première qui est considérée comme l'or vert du Burkina,
mm-hmm,
l'or vert des femmes,
oui,
parce que ce n'est produit que par les femmes. Mais il n'y a pas que le beurre de karité, il y a d'autres ingrédients que nous avons pu mettre dans ces produits-là, mm-hmm, venant du Maroc, l'huile d'argan, venant du Mali, l'huile de baobab, ainsi de suite.
Mm-hmm.
Tout ça, c'était pour aider ces femmes à devenir autonomes.
Oui.
Donc, l'écosystème s'est créé autour du beurre de karité en premier, mmh, au Burkina Faso, où nous avons aidé les femmes productrices à devenir les premières au monde à obtenir la certification bio,
okay,
biologique,
oui,
pour leur beurre de karité.
Mmh.
Du coup, leurs matières premières sont passées de... ont triplé de prix.
Oui.
Donc, c'est une... C'était pour moi une façon, mm-hmm, vraiment de les amener à une meilleure autonomisation.
Oui.
Et ça s'est fait également à travers un fonds social qu'on a créé là-bas.
Mm-hmm.
Et le fonds, parce que vous savez, les femmes, quand elles ont leurs enfants, elles vont à l'hôpital, elles n'ont pas de quoi, elles n'ont pas d'assurance.
Oui.
Et elles n'ont pas de quoi payer les médicaments. Notre fonds social leur a permis d'aller... d'avoir une carte un peu, pas une carte d'assurance maladie, là,
oui, oui,
pour aller dans les pharmacies et obtenir des médicaments.
Mm-hmm.
Donc, c'est un écosystème vraiment de productrices qui partait de la cueillette, pas la cueillette, parce que le beurre de le karité, c'est un fruit,
oui,
qui se mange,
okay,
et dont le noyau comprend une amande, et mm-hmm, c'est cette amande qu'on écrase pour en faire du beurre ou de l'huile de karité.
De karité.
Donc, c'est, ouais, un produit qui est exceptionnel, qui se consomme de bout en bout.
Mm-hmm. Ouais. Donc, finalement, il y a de nombreuses femmes que tu as amenées à une émancipation, à devenir aussi autonomes.
Quand on les a rencontrées, les femmes productrices, elles étaient 20.
OK.
Au moment où je vous parle, elles sont plus de 2000 qui ramassent les noix, écrasent les, mmh, noix, commercialisent les noix. Donc, on les a amenées à éduquer leurs enfants.
Oui.
Éduquer leurs enfants, ça veut dire que les 2000, ça veut dire des familles multipliées par 8 personnes, mmh, en moyenne.
Mmh.
Donc, 8 personnes, 8 enfants en moyenne qu'on peut éduquer, qu'on peut soigner.
Oui.
Et pour moi, c'est un... C'est ce qu'on devrait faire.
Mmh.
Ouais.
Puis, lorsque tu reviens dans ton pays d'origine, au Cameroun, qu'est-ce que tu ressens? Parce que, premièrement, il doit y avoir de l'admiration de tous ces gens-là qui t'ont vu évoluer. Mmh. Qu'est-ce qu'on ressent quand, mmh, on revient au pays?
Je ne peux pas expliquer ce que je ressens quand je reviens, mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis ma nomination, il y a une croissance incroyable de l'immigration camerounaise au,
oui,
Canada.
Ah, ça, oui, ah oui,
ah oui. Donc, non, il y a une fierté.
C'est ça.
Quand on est nommé, c'est tout le pays qui était fier de ma personne.
Oui.
Et ça se ressent aujourd'hui, mm-hmm, par... l'engouement des Camerounais à venir
Canada. À venir au Canada, à, ouais, choisir le Canada. Tu as 4 enfants,
mm-hmm,
donc avec cette mère et aussi un père, parce qu'il y a la fibre entrepreneuriale est dans la famille. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous avez, que tu as transmis, ou ton conjoint et toi a transmis aux enfants qui font que maintenant, ce sont des adultes, puis qui sont chacun dans leur chemin? Qu'est-ce qui a été cette transmission? Et puis, est-ce qu'ils ont pris de ce qu'on voit de la mère?
Ce que j'ai transmis, c'est la résilience.
Oui.
Et la capacité de croire en soi, d'oser.
Mm-hmm.
Il y a un mot qui revient, une expression qui revient toujours dans notre famille. C'est « pourquoi pas ».
Mm-hmm.
Pourquoi pas? Parce que on va dire, il y a 1% qui réussissent dans le domaine des arts.
Oui.
Pourquoi ce ne serait pas toi?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Il faut y croire.
Oui.
Croire que ce qui est réservé à 1%, moi, je peux l'atteindre. Mm-hmm. Si je travaille, si j'y crois, si je persévère.
Ouais.
C'est ça qui est la fibre familiale.
Ouais.
Le fil conducteur.
Le fil conducteur.
Et c'est ça qui fait qu'ils sont presque tous aujourd'hui entrepreneurs. Dans des domaines aussi variés que le sport,
okay. Oui.
Que les arts, que le design, les banques, les finances.
Oui.
Écoutez, ils sont dans tous les sens.
Ouais.
Entrepreneur. Ouais.
Donc les quatre ont pris de ça pour, ouais. Pour évoluer dans leur propre champ ouais. d'activité et aussi, ce que tu dis bien, dans leur passion.
Dans leur passion.
Ouais.
Faut y croire.
Donc, actuellement, tu es sénatrice et aussi coprésidente de l'Association parlementaire Canada-Afrique.
Mm-hmm.
Dis-moi comment on fait la transition entre... l'entrepreneuriat et le Sénat. Donc, comment tu as fait? Puis surtout, comment cette opportunité est arrivée? C'est une opportunité. Alors, j'ai bien hâte d'entendre ça.
La transition, écoutez, déjà, ce n'est pas quelque chose que j'ai planifié.
D'accord.
Je rêve beaucoup. Je mm-hmm. suis une rêveuse, mais je n'ai jamais rêvé de celui-là,
mm-hmm.
de, cette, de ce choix-là de oui. carrière. Ça m'est arrivé. Et je l'ai accepté parce que je pense que pour moi, j'ai toujours pensé qu'il faut avoir un impact
mm-hmm.
autour de soi.
Mm-hmm.
Comme je le dis toujours, on a beau avoir de gros chiffres d'affaires, si on n'a pas un impact, il n'y a personne qui le saura.
Ouais.
Et en travaillant au Sénat, je me suis rendue, en allant au Sénat, je me suis dit que c'est l'occasion, c'est l'endroit où je peux avoir le plus d'impact.
Mm-hmm.
Non seulement dans la communauté locale,
oui.
mais aussi nationale, internationale.
Mmh.
Ce que je faisais déjà personnellement dans mes entreprises, je pense que je peux le multiplier mmh. par 10, 20 en étant au Sénat. Pourquoi? Parce que au Sénat, on représente nos communautés.
Oui.
On porte la voix de nos communautés. On regarde des projets de loi avec les lentilles de nos communautés.
Mm-hmm.
Il n'y a pas mieux. Et on peut apporter des projets de loi privés
oui.
ou soutenir des projets de loi qui sont déjà là.
Mm-hmm.
Donc, pour moi, il n'y avait pas mieux que ça pour une fin de carrière.
Oui. Puis, est-ce que l'entrepreneuriat vous te manque?
Ce qui me manque surtout, c'est l'entrepreneuriat. Je veux dire, je serai toujours entrepreneur.
Oui.
Je conseille, je mentor. J'ai autour de moi un écosystème qui me consulte. Donc, personnellement, ça ne me manque pas. Ce qui me manque surtout, c'est l'écosystème que j'avais, par exemple, avoir... faire du réseautage, rencontrer des gens. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose.
Oui.
Aujourd'hui, mes déclarations ne m'appartiennent plus.
Oui.
Mon image ne m'appartient plus.
Mm-hmm.
Alors que je suis sénatrice indépendante.
Oui.
Mais je pense qu'on est plus indépendant quand on est à la tête de son entreprise.
Tout à fait.
Donc, c'est ce côté-là que je dois gérer intelligemment parce que il y a beaucoup, beaucoup à apprendre.
Mm-hmm.
J'apprends énormément. Je découvre des choses qui m'étaient totalement inconnues
oui.
avant.
Oui. Donc, Amina Gerba, tu nous as parlé justement de ce que la différence entre être entrepreneur et au Sénat, donc l'image qui t'appartient plus, les déclarations, etc. Donc, ce qui m'amène aussi à te poser, lorsqu'on rentre au Sénat, tu avais quand même plusieurs entreprises, qu'est-ce qui arrive?
Alors, quand on nomme les sénateurs,
oui.
on nous dit que vous êtes d'abord sénateur.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que c'est le travail du Sénat qui prime.
Oui.
Donc, vous êtes sénateur partout Et c'est ça qui prime. Mm-hmm. Mais vous pouvez avoir vos activités. Alors moi, je me suis dit, oh oui, je vais garder mes activités. Mais non. Quand vous rentrez au Sénat et que vous avez une activité qui se rapproche de ce que vous portez comme priorité,
oui.
ce que vous avez comme enjeu, ce que vous avez comme objectif,
mm-hmm.
si ça se rapproche un petit peu de ce que vous faisiez dans votre ancienne vie,
oui.
vous allez tout de suite comprendre qu'il faut sortir de là.
Mm-hmm.
Écoutez, j'étais dans une dizaine de CA.
Oui.
Parce que pour moi, c'est important. C'est important de servir. C'est important de s'impliquer bénévolement.
Mm-hmm.
J'ai dû sortir de tout ça parce que si tu veux aider ces organisations dans lesquelles tu étais,
oui.
la meilleure façon de le faire, c'est en étant au Sénat. C'est en faisant des déclarations qui les soutiennent.
Oui.
Mais ne pas être...
À l'intérieur.
Voilà, ne pas être, comment on dit, impliqué.
Oui.
Directement, juge et partie.
Mm-hmm.
Donc, la meilleure façon pour moi était de sortir de ces organisations, incluant mes propres entreprises.
Oui.
Mes propres entreprises qui avaient toutes un lien avec l'Afrique.
Mm-hmm.
Donc, si, comme je me bats depuis plus de 25 ans à faire un rapprochement
oui.
économique entre le Canada et l'Afrique,
mm-hmm.
je ne peux pas continuer de le faire en étant... la coprésidente de l'Association parlementaire Canada-Afrique. Il faut
oui.
faire un choix.
Oui.
Donc, j'ai dû faire des choix.
Mm-hmm.
Et ces choix-là m'amènent à parler librement de mm-hmm. ces sujets.
Mm-hmm.
Donc, c'est la première surprise qu'on a quand on devient sénateur, c'est de voir qu'est-ce qui est prioritaire pour vous. Si vous n'avez pas un projet prioritaire, ben, vous êtes bien, vous allez parler de tout,
oui.
mais vous êtes capable de garder. Il y a des médecins qui continuent à pratiquer, il y a des avocats qui continuent à pratiquer,
mm-hmm.
il y a des... Mais entrepreneurs, je touche à presque tout.
Tout, exactement.
Donc,
ouais.
c'est difficile d'être dans un comité où on va tout le temps dire, ben, je ne peux pas me prononcer parce que ça me touche.
Oui, exactement.
Donc, c'est important.
Parce que, en plus, tu es vice-présidente de l'Association parlementaire Canada.
Co-présidente.
L'Association parlementaire Canada-Afrique. Mais l'entreprise que tu avais précédemment, Afrique Expansion, faisait aussi le lien entre le Canada et l'Afrique. Donc, est-ce que le fait d'avoir aussi, parce que sénatrice, mais aussi co-présidente de cette association, ça vient aussi du bagage que,
oui.
que tu as.
Absolument, absolument. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a élue co-présidente de cette association.
Ouais.
Parce que, en fait, l'association parlementaire, je vous dirais que c'est une association qui permet des échanges entre parlementaires.
Oui.
Je suis coprésidente du côté du Sénat
mm-hmm.
et il y a une coprésidente aussi du côté de la Chambre des communes parce que le Parlement du Canada, vous savez,
oui.
c'est la Chambre des communes et le Sénat.
Exactement.
Donc, c'est pour ça qu'on est deux coprésidents qui
mm-hmm.
sont élus. Et je pense qu'ils ont vu mon parcours. Le premier ministre, quand il m'a nommée, il m'a demandé de continuer à faire ce que je faisais déjà
mm-hmm.
Pour le Canada et l'Afrique. Donc, c'est une fierté et un honneur de continuer à faire ça au sein du Parlement du Canada.
Parlement, oui. Avant le Sénat, tu étais plus au niveau du Grand Montréal. Est-ce que maintenant, puisque c'est à Ottawa, est-ce que tu dois vivre à Ottawa?
Alors oui, je vis à Ottawa durant les périodes, durant les sessions parlementaires.
Oui.
Et je représente le Québec.
Mm-hmm.
Et le Québec est la seule province qui a des divisions sénatoriales.
Oui.
On est 24 sénateurs du Québec
mm-hmm.
et on représente des divisions sénatoriales. Moi, c'est la division de Rigaud. Contrairement aux députés,
oui.
je n'ai pas besoin d'avoir un bureau
okay. mm-hmm.
dans cette division.
Mm-hmm.
Et c'est une division qui est assez large, vraiment. Mais c'est... la Constitution qui le veut ainsi.
D'accord. Donc, mmh. donc partiellement, tu es entre Ottawa et
oui.
le Grand Montréal.
Et au Grand Montréal, le Québec.
Le Québec, le Québec. Puis comment la famille a suivi ce changement-là? Parce que c'est un changement dans les habitudes aussi familiales.
Beaucoup de changements. Mmh. Ce que je vous ai dit par rapport aux entreprises s'applique aussi à la famille. Donc, je ne peux plus, par exemple, liker, si je peux dire en bon français, une publication d'un de mes enfants. Ils sont entrepreneurs. C'est comme si le Sénat me payait pour promouvoir ma famille. Donc, c'est un changement quand même assez brutal pour eux, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que je devienne... que je ne puisse plus commenter n'importe quelle publication qu'ils font.
Donc, donc maman peut juste regarder, mais sans rien dire.
Oui, et on m'a dit, hein, le conseiller à l'éthique m'a dit, vous savez, vous pouvez les féliciter à la maison, hein, vous n'avez pas besoin.
Ah ouais, parce qu'il y a tout un protocole à suivre.
Oui, c'est très difficile, je vous avoue, c'est très contraignant.
Oui.
Parce que ça s'applique aussi à mon conjoint. Tout ce que je dois respecter, ça s'applique aussi à mon conjoint.
Exactement.
Mais les enfants de 18 ans peuvent faire des choses. Oui. C'est juste que je n'ai pas besoin de les appuyer publiquement.
Je suis très contente que tu aies nommé le conjoint, parce que ma prochaine question était justement pour le conjoint, c'est-à-dire que en tant que femme, on peut réussir seule, on peut réussir avec notre famille, etc. Mais l'apport du conjoint, quel a été l'apport de ton conjoint dans tout ce succès?
Écoute, je peux dire qu'il est derrière tout ce succès, en fait, parce qu'il m'a donné la possibilité de faire... de grandir, en fait. Quand on est arrivé au Canada, il aurait pu, dire, ben, t'as pas besoin de poursuivre tes études.
En effet.
Tu fais des enfants. Mais moi, ce que je vous ai pas dit, c'est que chacun de mes enfants que j'ai eu au Canada, je l'ai eu à chaque fois, c'était à la fin de mes études.
Ah oui?
Quand j'ai eu ma deuxième qui est née au Canada, je finissais mon DEC. La troisième, je finissais mon bac.
Ah,
le quatrième, c'était un an après mon MBA.
Oui.
Et qui était là pour me soutenir? C'est lui.
Oui.
Moi, j'allais faire mon MBA, j'étais dans les bibliothèques tout le temps, mais c'est lui qui était là parce qu'il était en rédaction de thèse. C'est lui qui s'occupait des enfants. Donc, si vous n'avez pas un conjoint qui vous appuie, qui vous supporte, qui vous fait confiance, c'est difficile de réussir. Et moi, je dis toujours que j'ai eu cette chance-là. Et,
tant mieux. J'aimerais savoir maintenant, actuellement au Sénat, à quoi ressemble la diversité?
Le Sénat, contrairement à la Chambre des communes, est très diversifié. Je vous dirais qu'on est presque à égalité, homme-femme. On est à parité.
À parité,
homme-femme. Par ailleurs, on a une dizaine de sénateurs aujourd'hui, 8 ou 9, qui sont noirs.
Oui,
Donc, la diversité est présente. Une dizaine de sénateurs qui sont autochtones. Donc, c'est vraiment un milieu très inclusif, très diversifié. Et on a même une sénatrice exceptionnelle qui est handicapée.
Oui.
Donc, on est choyé d'être au Sénat. Mais, et ça, c'est parce que nous sommes nommés. Donc, le premier ministre a la possibilité de proposer, parce que c'est le premier ministre qui propose à la gouverneure générale de nommer des sénateurs.
D'accord.
Qui recommande suite à un examen qui est fait par un comité indépendant.
Oui.
Donc, il a la possibilité d'appliquer son...
droit de veto?
Son choix en fonction de ce qui est.
OK.
Alors qu'à la Chambre des communes, c'est des élections
oui.
qui décident.
Oui,
donc, s'il n'y a pas plus de femmes qui se présentent, s'il n'y a pas plus de minorités qui se
oui.
présentent, et encore, quand les minorités se présentent, est-ce qu'elles sont élues? Mmh. Est-ce qu'elles ont envie de se présenter
oui.
en politique?
Oui.
Ça,
le contexte est différent.
Le contexte est différent.
C'est, ça, oui.
c'est différent. On a la possibilité, en tant que premier ministre, d'avoir cette diversité, cette parité. Et,
oui, de pouvoir, et puis de pouvoir plus l'imposer.
Exact.
Tandis en élection, ça dépend de beaucoup d'autres facteurs.
Exactement.
Ouais.
On peut, il a la capacité d'imposer ce choix-là. Surtout que depuis 2016, je ne sais pas si vous êtes au courant,
oui.
le Sénat, tous les sénateurs sont devenus, pas tous les sénateurs, tous les sénateurs nommés
oui.
par ce premier ministre, très honorable Justin Trudeau, sont des sénateurs indépendants.
D'accord.
Avant, c'était juste deux groupes, deux caucus, libéraux, conservateurs.
Okay.
Quand il est arrivé au pouvoir en 2015, il a décidé de faire du Sénat un Sénat indépendant, avec des sénateurs indépendants, nommés selon un processus indépendant. Donc, ça a permis qu'aujourd'hui, on est à presque 85% de sénateurs indépendants, c'est-à-dire qui ne sont pas liés à aucun parti politique.
Oui, je comprends. Ouais.
Voilà.
Ouais, qui est quand même une notion très importante. Là.
Ouais.
Okay. Donc, on sait que la fonction de sénateur peut s'exercer jusqu'à 75 ans. Tu es une jeune femme aussi. Alors, est-ce que tu te vois aussi longtemps au Sénat et puis aussi loin du monde des affaires? Est-ce que tu es capable de te prolonger jusqu'à ce moment-là?
Écoutez, un jour à la fois. Pour le moment, j'ai des ambitions au Sénat, j'ai des projets, j'ai des... j'ai beaucoup, beaucoup à faire au Sénat. On verra si je réalise tout ce que je veux réaliser pour les Canadiens au Sénat. Ben, on verra la suite.
Pour la suite.
Mais pour le moment, je suis là pour le reste du mandat et on verra comment ça se présente.
Ouais. Et puis, après 3 ans en tant que sénatrice, je pense que c'est bien 3 ans, est-ce que tu sens ton impact et tu sens que tu es capable d'aller encore plus loin? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens? Puis, il y a des choses dont tu peux nous parler?
Alors, après 3 ans... 2 ans et demi.
2 ans et demi.
2 ans et demi, en fait. Oui. J'ai été nommée en 2021, au mois de juin 2021. Je pense que j'ai beaucoup appris.
Oui.
La première phase, c'est vraiment l'apprentissage. Aujourd'hui, je suis fière de dire que on est aujourd'hui à travailler sur une étude sur les engagements du Canada en Afrique, grâce à ma participation au Comité Affaires étrangères et Commerce international. C'est un pas des géants pour le Sénat, parce que le Sénat n'a jamais effectué une étude sur l'Afrique. Et les études du Sénat sont très, très appréciées, très approfondies.
Ouais.
Donc, j'ai hâte de voir quelles en seront les recommandations.
Ouais.
Deuxième chose, on a terminé, j'ai participé à une étude sur le racisme anti-noir au sein de la Commission des droits de la personne, la Commission canadienne des droits de la personne.
Oui.
C'est la première, c'est une grande première aussi.
Oui.
Et... Je peux continuer, mais je pense que
c'est
l'impact commence à se voir, parce que les sujets qui me sont importants, là, on travaille sur une étude qui va se présenter aussi, une étude qui va être présentée bientôt sur le programme des entrepreneurs noirs qui a été lancé par le gouvernement.
Oui.
Donc, tranquillement, on est en train de faire un chemin.
Oui.
Et je pense que les prochaines années, si Dieu le veut, vont être meilleures.
Amina, j'ai tellement d'autres questions, mais on arrive à la fin. Donc, alors,
je pense qu'il y a déjà coupé.
Non, on est encore en ligne. C'est très bien. Alors là, rapidement, peut-être un petit mot pour les femmes qui nous écoutent. Juste un petit mot assez court.
Soyez, pour les femmes qui nous écoutent, je leur dirais de ne jamais se limiter à ce que les autres pensent d'elles.
Wow, magnifique.
Elles sont capables et elles peuvent réussir dans leurs ambitions tant qu'elles sont passionnées.
Magnifique. Merci pour cette belle fête. Amina, merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai eu un immense plaisir à t'interviewer et puis j'ai encore compris d'autres choses sur toi. Alors, je te souhaite une belle continuation dans tes divers rôles. Un beau modèle. Merci d'être un beau modèle pour nos générations futures.
Merci.
Donc, je rappelle que mon invité est Amina Gerba, sénatrice et coprésidente de l'Association parlementaire Canada-Afrique. Ceci met fin à notre émission. Merci bien à toute mon équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et ici Marjorie Théodore qui vous donne un autre beau rendez-vous la semaine prochaine.